On commence comme tous les soirs avec le premier journal du soir et avec vous Virginie Pierronneau, bonsoir.
Bonsoir.
L'essentiel de ce mardi commence avec ce terrible incendie donc à Paris dans le 16e arrondissement.
10 morts, une trentaine de blessés, incendie selon toute vraisemblance criminelle. Les pompiers eux-mêmes ont été surpris par la violence et la vitesse de propagation du feu. Nous serons dans un instant à la mairie du 16e arrondissement où une cellule psychologique a été mise en place. Dans l'actualité ce soir, la loi anti-casseurs votée à l'Assemblée nationale, mais 50 députés LREM qui s'abstiennent. C'est un record sur un texte soutenu par le gouvernement. Du rouge et du jaune, journée de grève nationale à l'appel de la CGT. Un mot d'ordre, l'urgence sociale. Pour la première fois, des gilets jaunes se sont joints au cortège. Nous serons à Toulouse. Dans ce journal également, le pot de terre contre le pot de fer. Un agriculteur poitevin tente de se suicider après avoir contracté une maladie suite à une exposition au glyphosate. Et puis la situation au Venezuela et cette question, que va faire l'armée? Le 18-20, au programme avec vous ce soir, Fabienne.
Eh bien, 18h15, un jour dans le monde. Ce soir, on va parler des interprètes afghans laissés sur place par l'armée française. Leur vie parfois en danger, mais leurs visas ne sont délivrés qu'au compte-gouttes. Le président Macron avait même comparé leur situation à celle des harkis. C'était pendant la campagne. Deux journalistes ont enquêté. Ce sera la première escale d'un jour dans le monde. Ce soir, nous sommes aussi au Bénin qui laisse partir ses filles vers le Liban, vers le Koweït, servir de domestique. Et puis, 19h20, le téléphone sonne. Nous aussi, ce soir, on essaie, disons, de compter les points après cette journée de mobilisation lancée par la CGT, journée qui s'annonçait comme une grève générale aussi. Alors, est-ce que la grève avec les gilets jaunes est là ou décidément pas encore faite? Est-ce que la défiance des gilets jaunes contre toute institution, encore une fois, touche les syndicats? On voit ça ensemble au 01 45 24 7000. Une nuit donc infernale et un incendie d'une rare intensité qui a ravagé un immeuble du 16e arrondissement de Paris.
Oui, le bilan est très lourd. Un 10e corps a été retrouvé ce matin dans les décombres. Il y a plus d'une trentaine de blessés, dont 8 pompiers. Incendie très probablement criminel. Une femme de 41 ans, connue pour des antécédents psychiatriques et en état d'ébriété au moment de son arrestation, a été conduite ce soir à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. Bonsoir Yann Gallic.
Bonsoir.
Vous êtes, vous, Yann, en ce moment à la mairie du 16e arrondissement où une cellule psychologique a été mise en place.
Des rescapés sidérés par la violence de l'incendie, Adam habitait au 7e étage de l'immeuble qui a pris feu. Il est resté un long moment dans cette fournaise avant d'être secouru par les pompiers.
Le feu, il a pris très vite. J'ai vu un jeune homme, il a sauté, il n'avait aucune chance. Son appart était en feu. J'ai vu une femme aussi, elle criait, elle brûlait vif. J'ai vu des personnes, ils étaient sur le toit, le feu il est monté jusqu'au toit. Moi franchement, je vous dis la vérité, je voyais pas le bout. Moi je pensais que c'était bientôt mon heure.
Comme Adam, plusieurs habitants sinistrés ont donc rejoint la mairie du 16e arrondissement pour essayer de trouver une solution d'hébergement, pour rencontrer aussi des psychologues. Gaëlle Abgral est la responsable de la cellule d'urgence médico-psychologique du SAMU de Paris.
Ceux qui ont survécu sont souvent malheureusement dans un état de stress aigu. Ils sont comme ça avec l'idée qu'ils ne sont pas en sécurité. Beaucoup ne souhaitent plus habiter dans des appartements, mais souhaitent habiter dans des maisons, avec aussi une sidération parfois psychique, pas comprendre finalement ce qui s'est passé, ce qui leur est arrivé, tellement l'horreur de la situation était terrible.
Une trentaine de personnes devraient être provisoirement relogées dans des hôtels et certains habitants du 16e arrondissement ont également proposé d'accueillir chez eux des rescapés de l'incendie.
Yann Gallic en direct de la mairie du 16e arrondissement avec les moyens techniques de François Rivalan. Les pompiers, eux aussi, ont été surpris par la propagation effrayante, disent-ils, des flammes. Intervention extrêmement compliquée. 250 pompiers mobilisés pendant plus de 5 heures. Intervention sur laquelle revient le lieutenant-colonel Gabriel Plus des pompiers de Paris.
C'est une intervention hors norme, absolument. On peut faire le parallèle avec d'autres interventions en 2005, notamment celle de Paris Opéra, rue de Provence, a fait 28 morts, dont 11 enfants. Voilà, c'est quasiment similaire parce que l'engagement se passe en pleine nuit. Il faut passer un premier immeuble qui donne sur rue, accéder à la courette, découvrir les fenêtres allumées, hein, les appartements qui flambent, et tout de suite poser ses actes réflexes qui vise à établir des échelles, les prolonger avec les échelles à crochets. L'échelle à crochets, elle date d'environ 100 ans. Donc c'est quelque chose de très rustique. C'est des échelles en aluminium légère, mais avec qui sollicite l'entraînement physique. Et c'est le cas des pompiers de Paris. Ils sont militaires, ils ont cette jeunesse, cette obligation de disponibilité. C'est pour ça qu'on a eu aussi plus de 200 pompiers assez rapidement sur les lieux.
Le lieutenant-colonel Gabriel Plus des pompiers de Paris. Je vous rappelle donc le bilan de cet incendie à Paris. 10 morts, une trentaine de blessés. Une messe en hommage aux victimes aura lieu ce soir en l'église Notre-Dame d'Auteuil. À Marseille, 3 mois après le drame de la rue d'Aubagne où 2 immeubles s'étaient effondrés provoquant la mort là de 8 personnes, la démolition de 2 immeubles vétustes a débuté ce matin dans une autre rue à 200 mètres de là, déconstruit à la main, ce qui devrait prendre plusieurs semaines.
À l'Assemblée nationale, le vote sur la loi anti-casseurs met le groupe La République En Marche au défi.
Sans grande surprise, la grande majorité des députés La République En Marche, mais aussi Modem, Les Républicains et UDI ont voté pour ce soir à 387 voix contre, 92. Mais 50 députés de La République En Marche se sont abstenus, beaucoup plus que sur la loi Asile et Immigration. C'est le cas du député La République En Marche, Mathieu Orphelin, dans son collimateur, l'article 2 du texte qui prévoit une interdiction de manifester pour quiconque constitue une menace pour l'ordre public. Trop de pouvoir au préfet au détriment des juges. Mathieu Orphelin avec Maxence Lambrec.
Il y a des dispositifs très intéressants. Et puis à côté de ça, il y a cet article 2 qui prévoit une nouvelle interdiction administrative de manifester qui, dans sa rédaction actuelle, ne donne pas assez de garanties parce que cette décision du préfet va être prise sans aucun lien avec la justice, avec une rédaction de l'article qui est trop floue pour l'instant. Et donc cet article 2, il pose problème. Mais on l'a vu, les prises de parole des différents personne dans l'Assemblée, un syndicat de police qui a dit « excusez-nous, mais cet article-là, il n'est pas opérant et en plus, il pose un problème face à la liberté de manifester, si jamais, bien sûr, un pouvoir mal intentionné venait à diriger le pays. » Mais il y a le temps, on est en première lecture et moi, je pense que compte tenu du nombre d'expressions, il y aura une réécriture.
Le député La République En Marche, Mathieu Orphelin. Le texte doit en effet encore revenir à l'Assemblée nationale après son examen par le Sénat le mois prochain. Hasard du calendrier, 3 mois après le début du mouvement des Gilets jaunes, journée de grève nationale et donc de manifestation à l'appel de la CGT et Solidaires, avec à leur côté la France Insoumise et des Gilets jaunes, Paris, Bordeaux, Lille, Marseille, Nantes ou encore Strasbourg. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont manifesté un peu partout en France. Alors la convergence des luttes chères à Philippe Martinez et Jean-Luc Mélenchon a-t-elle marqué des points? Cela semble être le cas à Toulouse, où plusieurs milliers de personnes, 10 000 selon les organisateurs, ont manifesté. Reportage Stéphanie Glésis.
Les drapeaux sont de toutes les couleurs, les gilets rouges sont arborés par la CGT, mais il y a aussi des gilets jaunes, certains mélangeant les couleurs et les revendications. C'est le cas de Rémi qui n'aime pas les étiquettes.
Là, il y a les foulards rouges, les gilets jaunes, les black trucs. Bon. Donc forcément, ça fait pas du bien à l'unité, ça fait pas du bien au combat. Là, le but du jeu, c'est vraiment qu'il y ait le maximum de citoyens qui soient tous ensemble. Et c'est ça aussi la France, et je pense que le combat, il va se gagner comme ça.
Carole est mère célibataire gilet jaune. Elle aime ce mouvement qui lui a redonné espoir.
Franchement, je galère. Et quand j'ai vu que mon peuple se soulevait, j'attendais ça avec impatience pour me joindre au mouvement, quoi. Ce que j'ai surtout trouvé, c'est en fait finalement, on se sentait vachement seul, chacun de notre côté, politisé ou pas, en fait. Et on se sentait surtout seul dans notre situation. Et j'ai surtout trouvé des gens dans la même situation que moi, avec beaucoup de solidarité. Et on se sent beaucoup moins seul face à nos problèmes financiers, en fait.
Quant à Bernard, il est à la fois gilet jaune, militant CGT et de France Insoumise.
Je coche toutes les cases. Pouvoir d'achat, l'augmentation du SMIC principalement et les retraites.
Dans ce cortège, nombreux sont ceux qui appellent à un Grenelle social qui permette à tous de retrouver du pouvoir d'achat. Toulouse, Stéphanie Glésis, France Inter.
Et la CGT prévoit d'ores et déjà une nouvelle journée nationale de grève à la mi-mars.
Alors que s'ouvrira demain le procès en appel d'un agriculteur charentais contre Monsanto, un nouveau drame lié au glyphosate.
Un agriculteur du Poitou, âgé de 64 ans, devenu handicapé après une exposition au glyphosate, a tenté de mettre fin à ses jours la semaine dernière à Châtellerault dans la Vienne. Pas assez d'argent pour attaquer Monsanto, dit-il, et sa maladie professionnelle lui fait vivre un enfer administratif. Jules Brelaz.
C'était il y a 15 ans, 6 mois et 23 jours précisément. Jean-Paul Lucas était alors aux commandes de sa moissonneuse-batteuse dans son champ situé à Scorbé-Clairvaux.
On était le 13 juillet 2003 et il me restait 4 hectares de colza à moissonner. Et malheureusement, ma clim est tombée en panne. J'avais ouvert les vitres et là, j'ai brûlé en absorbant les vapeurs de glyphosate. Et le lendemain matin, je suppurais de liquide jaune tout mon corps. Ce glyphosate m'a causé de gros problèmes pulmonaires, des œdèmes de quinque.
Des brûlures aussi à l'origine d'une hypersensibilité à la lumière. Et malgré le statut de maladie professionnelle, Jean-Paul Lucas renonce à attaquer en justice Monsanto.
Je suis le pot de terre qu'on contre le pot de fer. Hein. Je ne peux pas attaquer Monsanto. Financièrement, je ne peux pas.
Avec 10 euros par mois de pension d'inaptitude au travail, le calvaire médical se double d'un enfer administratif qui a fait craquer Jean-Paul Lucas.
On se bat contre la maladie. Maintenant, il faut encore que je refournisse des papiers, des preuves. Et voilà pourquoi je suis passé à l'acte. J'ai pas peur de le raconter, hein, parce que c'est la vérité. J'ai passé une corde et je me suis pendu dans le vide d'une vie infernale.
Jean-Paul Lucas est finalement sauvé par un passant et des salariés de l'agence Groupama de Châtellerault, devant laquelle il a tenté de mettre fin à ses jours.
Reportage signé Jules Brélaz de France Bleu Poitou.
Il est 18h10 sur France Inter. Au Venezuela, c'est la grande interrogation et la grande crainte aussi.
Après la reconnaissance officielle de Juan Guaido comme président par intérim par 19 pays européens, comme les États-Unis, le Canada et de nombreux voisins, pays voisins du Venezuela qui l'avaient déjà fait, que va faire l'armée? Une armée dont les chefs continuent pour l'instant de soutenir Nicolas Maduro contre ce qu'il dit être une tentative de putsch des États-Unis. Mais pour combien de temps? C'est un reportage d'Olivier Poujade à Caracas.
Entre 150 et 300 membres du commandement seraient aujourd'hui détenus dans les deux principales prisons de Caracas. Humberto Mayo, professeur à l'Académie militaire vénézuélienne, affirme que si l'armée régulière est encore derrière Nicolas Maduro, c'est qu'elle est soumise au système de terreur mis en place par le leader vénézuélien et ses alliés. L'armée est séquestrée sous le contrôle des commissaires politiques cubains. À l'intérieur, les unités sont harcelées, espionnées. Donc les soldats sont prudents. C'est la seule raison, la peur et l'intimidation à travers la corruption, la torture, la terreur. Une armée régulière terrorisée et des groupes de narco-militaires et paramilitaires au service du gouvernement. Toute une constellation de bandes armées, Colectivos, policiers du SEBIN, services de contre-espionnage et les PRANES. Ce sont des chefs de gang emprisonnés qu'ils ont fait sortir, ils leur ont mis un uniforme et les ont incorporés à la police et à la garde nationale. Des jeunes délinquants. C'est cette garde rapprochée que Nicolas Maduro compte emmener jusqu'au bout de son fanatisme.
150 000 personnes ce matin dans le grand stade d'Abu Dhabi pour assister à une grande première, messe en plein air, célébrée par le pape François en pays musulman. Le stade n'a pu accueillir tous les fidèles issus d'une centaine de nationalités. Et puis c'est cette nuit que Donald Trump doit tenir le traditionnel discours sur l'état de l'Union. Devant le Congrès, le président américain devrait mettre en avant la bonne santé économique du pays. Mais après la déroute républicaine aux élections de mi-mandat et l'épreuve de force déclenchée pour obtenir le financement d'un mur avec le Mexique, les républicains sont pris de doute. Selon une étude, un tiers de leur électorat souhaiterait désormais une autre candidature que Trump en 2020. Allez, on termine avec cette découverte étonnante, Fabienne. Un nouveau dinosaure dans le sud de l'Argentine, en Patagonie. Il y vivait il y a 140 millions d'années, entre le Jurassique et le Crétacé. Un herbivore, sa particularité, Sophie Becherel, bonsoir.
Bonsoir.
Il avait donc de grandes épines sur le dos.
Il s'appelle Baradasaurus pronus pinax. Il n'est pas bien grand, 3 mètres de long. Et d'après les paléontologues argentins qui l'ont mis au jour au nord de la Patagonie, il n'a pas d'équivalent dans le monde, d'où la création d'une nouvelle espèce dans la famille des dicréosaures. On ne connaissait jusqu'ici que 5 espèces dans cette famille, dont l'un en Tanzanie. Leur point commun, c'est en effet ces épines osseuses dorsales. Mais particularité pour ce nouveau spécimen, plutôt incomplet, puisque les scientifiques n'ont trouvé qu'un crâne, des morceaux de mâchoire, une vertèbre et une double épine. La spécificité donc, c'est que ces épines étaient recourbées vers l'avant et non vers l'arrière, comme celle d'Armagasaurus, un autre dinosaure argentin de cette famille. À quoi servait cette double rangée d'épines dorsales? Jusqu'ici, les paléontologues penchaient pour un ornement, un critère de différenciation sexuelle. Pour cette équipe qui vient de publier dans Nature, ce serait plutôt un système de défense destiné à éloigner les prédateurs. Le cou, mais aussi la colonne vertébrale, possède ces longues et fines épines. D'autres paléontologues se disent sceptiques sur cette conclusion. Pourtant, Nature est une revue prestigieuse. Le souci, c'est qu'il y a désormais tellement de nouveaux fossiles mis au jour dans le monde que la communauté a du mal à suivre. La relecture par les pairs est parfois bâclée, une conséquence de la tendance actuelle en science, publish or perish, publier ou mourir.
Merci Sophie Becherel. Voilà.
Pour moi je me suis remise à Game of Thrones, donc je vous le dis, c'est un dragon. C'est tout. C'est ma conclusion et vous verrez, à la fin c'est moi qui aurai raison. Merci beaucoup Virginie, vous allez revenir dans Un jour dans le monde.